Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de l'Happy Hour scientifique.
L'Happy Hour scientifique.
Assez goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux!
Comme les champignons à l'automne poussent partout en France de nouveaux hangars, entrepôts, centres de tri, ce que le magazine Socialterre appelait en 2021 l'empire logistique. Répondre à l'augmentation du flux de marchandises tout en y participant, livrer plus vite, en plus grande quantité et pour moins cher, voici la course effrénée à laquelle se livrent les entreprises de transport et autres Amazon, Fnac, Zalando, DHL. Symbole de cette fuite en avant, Green Dog, dont nous allons parler aujourd'hui, cristallise toute l'ambivalence et l'absurdité de cet empire logistique prétendument durable. Alors Green Dog, c'est un entrepôt logistique de 600 mètres de long, deux fois le Stade de France, et 30 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble d'une dizaine d'étages, qui devrait sortir de terre d'ici 2026 dans le port de Gennevilliers, première plateforme multimodale d'Île-de-France à 5 km au nord-ouest de Paris. Le projet, comme son nom l'indique, se veut « green », donc vert, durable, et effectivement l'un des objectifs affichés est de densifier le trafic fluvial de péniches moins émetteur que le trafic routier. Un entrepôt qui permettrait, selon les promoteurs, de retirer les camions de la route en les remplaçant par des péniches, mais également de diminuer les distances de livraison avec la capitale. Comme le dit le maire communiste de Gennevilliers, Patrice Leclerc, c'est un véritable enjeu écologique de pouvoir livrer proche de Paris, alors que si l'on construit sur des terres agricoles, on sera obligé de livrer par camion pour traverser toute la région parisienne. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet, et outre sa réelle utilité, ce qui est aussi reproché à cet entrepôt, c'est sa taille et son emplacement. Trop grand, trop proche d'une zone Natura 2000, seule zone Natura 2000 en petite couronne. Et de fait, juste en face de l'entrepôt se trouve la pointe de l'île Saint-Denis, une zone protégée, réserve ornithologique conséquente et surtout pour la région parisienne. Alors l'impact de l'entrepôt sur la biodiversité a-t-il été sous-évalué ? Représente-t-il une menace pour la faune de cette zone protégée ? Et a-t-on réellement besoin de ce genre d'entrepôt ? C'est ce que l'on va essayer de comprendre avec notre invité David Garborio, qui est sociologue du travail à l'Université Paris-Cité et spécialiste du secteur logistique. Bonjour David.
Bonjour.
Alors, tout de suite, c'est l'heure de la tournée de shot.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, où vous suivez votre intuition, où vous vous dégonflez.
Et du coup, contrainte à la tienne.
Alors David, je t'explique la règle. Ça va durer une minute et je vais te poser une série de questions à laquelle il va falloir répondre rapidement et donc le plus grand nombre de questions possible. Est-ce que t'es prêt ?
Ouais.
Alors, c'est parti. Alors, quel est ton animal en voie de disparition préféré ?
Le cormoran. Il n'est pas en voie de disparition, c'est pas grave.
C'est pas grave. Alors, plutôt Total ou Crotal ?
Crotal.
Quel est ton fleuve favori ?
La Seine.
Eh bien, oui. Et comment tu vas ?
Ça va bien.
Est-ce que tu peux appeler ton prénom à l'envers ?
Ah, c'est un D, un I, un V... Ah non, je peux pas.
Il peut pas. Ton petit déjeuner typique ?
Des céréales.
Des céréales, c'est tout genre, sans
avec
lait.
Du lait.
Ok. Alors on est sur quelle radio aujourd'hui ?
On est sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris, tout à fait. Et plutôt Green Day ou Green Dog ?
Plutôt Green Day.
Est-ce que tu connais une chanson de Green Day ?
Non.
Écoute, c'est pas grave, t'as répondu à toutes les questions, bravo, t'as gagné la tournée de shot.
Merci.
Donc ce soir, pour nous accompagner, nous avons autour de cette table Jocelyn. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
De quoi parlera ta chronique ?
Je vais parler de la mobilisation citoyenne autour de Green Dog.
Super. Et donc à la réalisation derrière la vitre, mais aussi aux manettes du Caps ou pas Caps tout à l'heure, c'est Pierre-Yves.
Et oui, salut Joachim, salut tout le monde.
Et tout de suite, c'est l'heure de se mettre à la page et de se désaltérer avec quelques gorgées de science de notre cher Alexandre.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Alors... Comment Bonjour. Ça va Alexandre ?
Ben, ça va très
Où
bien.
En est la science ?
Alors, je vais parler de science, mais d'abord j'aimerais vous avouer quelque chose. J'adore les dinosaures. Et donc, par conséquent, impossible pour moi de passer à côté de cette nouvelle étude qui est publiée dans la revue Paleobiology et qui explique comment les théropodes ont pu atteindre des tailles gigantesques tout en conservant leur posture bipède.
Et alors, qu'est-ce que c'est que les théropodes ?
Eh ben, c'est un groupe d'animaux, c'est ce qu'on appelle une clade, qui regroupe le bien connu T-Rex et ses cousins disparus, spinosaures et autres gigantosaures, mais aussi la terrible Gallus gallus. C'est la poule commune. Puisque les oiseaux, effectivement, font partie, eux aussi, de la clade des théropodes. C'est l'une des caractéristiques de ce groupe, c'est que... ce groupe de dinosaures, c'est que c'est son exclusive bipédie. Et évidemment, pour un moineau, ça ne représente pas un problème, mais quand on est haut de quelques mètres et qu'on fait plus de 8 tonnes, c'est le poids d'un éléphant, comme un T-Rex, et bah c'est plus difficile de tenir sur ses deux pattes. Alors, pour comprendre cette question, le paléontologue Romain Pintor a récupéré des scans 3D de 68 fémurs de 6 familles de dinos différentes, dont une vingtaine sont des géants pesant plus d'une tonne. Et grâce à la technique de morphologie, de morphométrie géométrique en 3D, désolé, c'est un peu difficile, il a pu étudier les différences de morphologie des os pour mieux comprendre comment ces animaux se sont adaptés à la prise de masse. Résultat, la taille augmentant, les os montraient un renforcement de la structure osseuse pour soutenir le poids, et l'attache du muscle entre la patte et la queue qui se trouve juste à l'arrière du fémur a migré plus bas sur l'os chez les dinosaures les plus imposants, ce qui leur permet d'avoir plus de puissance au cours de la marche. Et ce qui est étonnant en fait dans cette étude, c'est de voir que toutes ces transformations se sont produites de façon indépendante chez toutes les lignées de théropodes étudiées, et en fait c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Et dans un tout autre registre, vous avez peut-être remarqué que est sorti récemment GPT-4o, c'est la nouvelle amélioration de ChatGPT. Donc l'intelligence artificielle développée par la société OpenAI serait à présent capable de traiter l'audio, l'image, le texte en temps réel. Donc à ce compte-là, je pense qu'on peut presque s'imaginer avoir un petit majordome de poche, serviable et gentil et honnête. Mais si c'est ce que vous pensez, détrompez-vous. Parce que le 10 mai dernier, une équipe du MIT a publié un travail dans la revue Patterns montrant que les intelligences artificielles sont d'ores et déjà capables de nous manipuler.
Ah bon ?
Ouais, ces IA sont parvenues à abuser des humains dans des jeux en ligne, en utilisant la tromperie pour atteindre leurs objectifs, sans en avoir reçu l'instruction explicite. Certaines IA aussi sont capables de tricher lors de tests destinés à évaluer leur sécurité. Ça fait un petit peu peur, et pour Peter Park, chercheur au Massachusetts Institute of Technology, ces comportements inattendus pourraient avoir de graves conséquences sur l'avenir. À court terme, les scientifiques de l'étude estiment que les risques les plus probables sont une utilisation de ces logiciels à des fins frauduleuses, mais aussi à des fins de falsification d'élections.
Est un peu plus c'est une bonne nouvelle, ça.
Ouais, et les auteurs de l'étude appellent les décideurs politiques à prendre la mesure du problème et à considérer comme dangereux ces systèmes d'intelligence artificielle trompeurs. C'est vraiment un grand écart que je vous ai fait entre Terminator et Jurassic Park.
Bah écoute, que des bonnes nouvelles, Alexandre. Merci beaucoup pour ces gorgées de science.
Tu vois, le jour où les ouvriers viendront donner leur premier coup de pioche, si j'avais une mitrailleuse.
Oh, tais-toi.
Quoi, tu as peur? J'ai pas de mitrailleuse.
Mais il y a des choses qu'on ne dit pas.
Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes.
Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire.
Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût.
Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du type.
Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. J'aurais mieux aimé qu'on construise une tour en béton, un hangar en tôle ondulée. Là, les gens auraient pu se révolter. Mais voilà, c'est respectueux. Alors, on peut rien faire, on peut rien dire. C'est le moindre mal. Mais pourquoi le mal? Pourquoi pas le meilleur bien?
Et le mal, c'est l'idée, c'est le maire.
D'accord, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable. Ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Alors vous avez peut-être reconnu, c'était Fabrice Luchini dans le film visionnaire d'ailleurs, L'arbre, le maire et la médiathèque, un des derniers films de Romère en 1993, qui parle d'un projet litigieux d'une médiathèque dans un petit village. Qui n'est pas sans lien avec la discussion du jour. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de cet entrepôt Green Dock dans le port de Gennevilliers. Il y a plusieurs aspects de ce projet qui sont questionnables. Mais on va commencer par son potentiel impact sur l'écosystème des berges de la Seine, qui est par ailleurs la première zone non anthropique en aval de Paris. Alors, David, que sait-on des conséquences de la construction de Green Dock sur la faune, la flore, les oiseaux de cet endroit?
Déjà, il faut dire que c'est une enquête qui est en cours. parce qu'en fait, ça n'avait pas du tout été pris en compte dans le projet. C'est-à-dire que l'impact environnemental qui avait été mesuré, que ce que doivent faire les promoteurs, ils sont obligés de le faire, ne tenait pas compte de plein d'aspects de cet endroit-là. Et notamment, c'est un aspect qui est beaucoup mis en avant par la mobilisation, de la zone Natura 2000 qui est située juste en face. Donc cet entrepôt, il est prévu pour être fait à Gennevilliers. Mmh. Donc on est sur les bords de Seine. Et juste en face, il y a la pointe de l'île Saint-Denis. Je vous conseille d'aller voir cet endroit-là, il est assez étonnant. C'est une zone qui a été laissée libre évolution, on appelle ça, et où donc toute une nature s'est développée. Et aujourd'hui, c'est reconnu zone Natura 2000 parce que ça héberge plein d'espèces d'oiseaux, notamment des cormorans, d'où ma réponse à la question.
Non, on a dénoté, enfin le chiffre officiel, c'est 12 espèces d'oiseaux officiellement répertoriées, ouais. Il me semble.
Je ne sais pas si j'ai toute la liste, mais il y a des cormorans, des martins pêcheurs, des faucons cresserelles.
Oui, il y a des faucons, c'est quand même surprenant, des faucons en région parisienne. C'est pas moi, ça me...
Ouais, c'est des populations qui sont présentes en région parisienne, ce ne sont pas des espèces en voie de disparition. Mais en fait, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début des années 2000, il y a une chute impressionnante de toutes ces espèces. Donc en fait, elles sont en train de disparaître et c'est un souci. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où elles peuvent survivre et continuer de se déplacer, de nicher, etc. Et cet endroit-là, il est rare pour ça. Il y a très peu de zones Natura 2000 en Île-de-France et en Petite Couronne, c'est la seule zone Natura 2000. Donc il faut s'imaginer, c'est la première chose, que juste en face de la seule zone Natura 2000 de la Petite Couronne, on va construire un entrepôt géant de 600 mètres de long et de 35 mètres de haut. Donc c'est déjà un gros souci.
Et concrètement, donc c'est la berge d'en face de cette zone Natura 2000. Quels sont les désagréments que peut apporter donc le chantier, le bâtiment sur les espèces d'oiseaux? Parce qu'on nous dit oui, mais ce ne sera pas sur la zone reste la zone Natura 2000 et les oiseaux pourront continuer d'y nicher.
Bah, malheureusement, la biodiversité ne fonctionne pas comme ça. Ça peut être juste en face et pas dessus, ça va considérablement l'impacter parce que c'est très très long, ça fait 600 mètres de long, ça fait 35 mètres de haut. Rien qu'en termes d'ombre par exemple, ça va mettre la zone protégée sous l'ombre une partie de l'année. Ça va faire beaucoup de bruit parce que c'est des camions et principalement des camions, c'est pas un entrepôt fluvial, c'est des camions qui vont monter à 25 mètres de haut sur des rampes dans l'entrepôt, donc voilà, il faut imaginer le bruit des camions, le bruit des machines à l'intérieur et la lumière 24 heures sur 24 aussi, que va dégager cet entrepôt. Donc c'est dur d'imaginer que la colonie de cormorans, de 200-300 cormorans qui s'installent tous les ans juste en face de cet entrepôt, va continuer à le faire.
Et on voit bien aujourd'hui il y a pas mal d'études qui sont déjà sorties et on voit bien les conséquences de la pollution lumineuse sur la faune et sur la flore. Il y a des animaux qui se déplacent et il y a des plantes qui modifient aussi leur comportement parce qu'elles sont exposées à la lumière toute l'année, toute la journée.
Ouais, c'est des choses qui sont connues et d'ailleurs dans les schémas directeurs, ça s'appelle, de la région Île-de-France ou même les schémas directeurs du port de Gennevilliers qui veut construire ça, c'est indiqué qu'il faut protéger les berges de Seine à ces endroits-là parce que c'est ce qu'on appelle des trames bleues. Les trames bleues, les trames vertes, c'est les espaces écologiques prioritaires qui sont vraiment importants à protéger. Donc ok, le port de Gennevilliers peut se développer, mais en fait, pourquoi il se développe à cet endroit-là le long de la Seine? Ça, c'est pas normal. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'il y a autour aussi, toutes les berges de Seine qu'il y a autour, du côté d'Épinay aussi, qui est la ville qui est juste en face. Il y a toute une biodiversité à cet endroit-là. Et ce n'est pas juste de la biodiversité comme un espace à protéger, à mettre sous cloche, c'est aussi un espace où il y a plein de gens qui se baladent avec du loisir, c'est un espace de fraîcheur aussi pour les habitants de la banlieue nord. Et si on commence à construire des entrepôts géants sur les espaces de fraîcheur de la banlieue nord, on va avoir un souci dans les années à venir.
D'ailleurs, la mairie de Épinay qui est contre ce projet, c'est ça?
Ouais, les mairies alentours, en fait, il n'y a que la mairie de Gennevilliers qui veut construire le projet, mais les mairies qui sont en face, c'est-à-dire l'île Saint-Denis et Épinay, sont contre parce qu'elles ont des projets de renaturation des berges dans les années à venir, des projets aussi pour en faire des zones de loisirs, de balades et de fraîcheur pour les habitants de la banlieue nord. Et du coup, d'imaginer un entrepôt géant au beau milieu de ces projets-là, c'est assez absurde.
Et alors, on apprend, grâce au site Reporter, que sur le site du chantier, qui a d'ailleurs commencé, des effaroucheurs ont été installés. Des effaroucheurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Bah oui, en fait, il faut se dire que la biodiversité, c'est un problème pour les promoteurs immobiliers. Donc, il y a plein de manières de contourner ça. Donc, la première manière, c'était de ne pas prendre en compte la zone Natura 2000, comme je le disais. Et une autre manière de faire ça, ça a été de faire partir les espèces qui nichaient dans les entrepôts existants. Parce qu'en fait, pour l'instant, enfin, avant qu'ils aient commencé à démolir, c'était des vieux entrepôts qui étaient laissés là. Et ils veulent en construire un nouveau, beaucoup plus gros. Et dans les vieux entrepôts qui étaient à l'abandon, en fait, il y a plein d'espèces qui se sont mis à nicher. Donc pour pouvoir détruire le bâtiment sans avoir d'impact écologique, c'est comme ça que c'est présenté, il a fallu boucher tous les nids. Il y a eu 300 nids qui ont été bouchés à la mousse expansive et installer des effaroucheurs pour que les espèces s'en aillent et qu'on puisse construire enfin tranquillement ce bel entrepôt géant.
Et est-ce qu'il y a une dimension, que dit la justice sur ça? On a le droit de reboucher les nids si c'est sur un site privé?
C'est compliqué, il y a des recours qui sont engagés. Il y a une association de riverains locales qui s'appelle Stop Green Dog, qui existe depuis plusieurs années, qui mène cette bataille-là et qui mène des recours juridiques. Mais en fait, on sait bien qu'aujourd'hui, que les recours juridiques, c'est un débouché potentiel des luttes, ça peut aboutir. Mais en fait, pour que ça aboutisse, il faut qu'il y ait aussi une pression populaire. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres parties de la lutte qui émergent actuellement.
Et sur les relevés de biodiversité, les naturalistes des terres ont récemment fait essayer de faire leur propre relevé, c'est ça ?
Ouais.
Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils y ont trouvé ?
Oui, ils ont trouvé donc des cormorans, des martins-pêcheurs, beaucoup de martins-pêcheurs, beaucoup de faucons cresserelles, et puis plein de, d'espèces comme, alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a des chevalets guignettes par exemple, c'est une toute petite espèce d'oiseau avec des longues pattes, qui est assez rare en fait, qu'on voit assez peu en Île-de-France, il y en a plein là-bas, des bergeronnettes, des plantes, plein de choses qui sont, et c'est ça qui est intéressant quand même à dire, encore une fois, ce n'est pas une nature sauvage à préserver, c'est une nature qui s'est construite sur un terrain, le 93, qui est déjà industrialisé, qui est déjà pollué, mais qui existe et qui est là, et c'est un peu ce qu'on appelle la troisième nature parfois, et qu'il faut protéger parce que c'est celle qu'on a. On ne va pas en recréer une nouvelle nature imaginaire, on va juste essayer de faire en sorte de préserver celle qui existe.
Ouais, c'est une forme de résilience en fait de la nature face à l'industrialisation qu'on lui a imposée. Quoi.
Ouais, c'est ça. Il faut imaginer que cet endroit-là, la pointe de l'île Sani, la zone Natura 2000, il y a 50 ans, c'était un énorme tas de gravats. Et en fait, c'est juste le fait qu'il ait été laissé à l'abandon qui a fait renaître une sorte de nature par-dessus, qui fait qu'aujourd'hui, ça a une valeur écologique. Et maintenant que c'est là, il faut le garder. Quoi.
Tout à fait. Et alors, selon les soulèvements de la Terre, donc les études qui ont été menées par les promoteurs sur la biodiversité, on a des études de trafic des camions qui sont réalisées comme si chaque camion partait à plein, ce qui est globalement pas souvent le cas. On a des études d'ensoleillement réalisées avec une inclinaison du soleil qui serait douteuse. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais étude de luminosité n'incluant pas les phares des camions, et puis une étude de la biodiversité incomplète, on en a parlé, puisqu'elle n'inclut pas la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors tout de suite, c'est l'heure le premier changement de fût. On va écouter un titre de 2015, J.P. Manova, Pas de bol, un titre tiré de votre playlist logistique, David.
Au lieu d'être rappeur, je suis un travailleur qui fait du rap. J'taffe dans différents secteurs, j'ai pas fait la fac. Plus de 10 piges que j'alterne, mais si on l'intérime, paperasse manu, des cachets d'aspirine. À la maison, y'avait pas de père et de bras de fer. Avec la galère, un seul salaire pouvait pas le faire. Donc j'ai fait ma part du primaire au tertiaire. Laissé le rap au vestiaire, sans replay ni me relais par terre. J'me fais pas de film, j'élargis le monde sans zoom. J'ai un curriculum pire que Code Quantum. Des chantiers à l'hôtellerie, les bureaux aux entrepôts. Ma plume s'en est nourrie, acérant doucement ses crocs. Négro, j'ai pris ma dose, lutté seul pour ma cause. Rempli mon frigo en côtoyant la névrose. C'est ce que c'est que se lever tôt, être payé pas grand chose. Suppose là que je te parle en connaissance de cause. D'hypocrisie de bureau entre employés qui clopent, qui ressemblent étrangement à ce que je vois dans le hip-hop. Les mêmes chiens qui s'emputent entre eux pour le même os. Et les mêmes putes qui essaient d'être le pote dans les boss. Du personnel bronzé, du sous-sol à l'éclairage, qui d'un coup s'éclaircit dès qu'on monte dans les étages. À la machine à café, les mêmes genres de sourires. Que ceux qui veulent soit Ken, soit te voir pourrir. C'est pas de bol, j'aurais mieux fait taffer à l'école. Pas de bol, cash down ou rampera du sol. Pas de bol, faut que ma situation l'école c'est. Soit je me la donne, soit je tombe dans la rigole. Pas de bol, j'aurais mieux fait taffer à l'école. Pas de bol, cash down ou rampera du sol. Pas de bol, faut que ma situation l'école c'est. Soit je me la donne, soit je tombe dans la rigole. Le vol rapporte gros que si t'as fait les études. Huissier, tu fais des bracos sans plus aucune inquiétude. Les grandes écoles sans famille n'y pensent pas. C'est comme le gangstérisme, tu rentres pas comme ça. J'ai commencé par faire un peu de bise, ça payait les sapes. Pas de quoi on vive à moins de franchir les étapes. Pour que ça rapporte assez même si la vie paraît belle. Les mecs sont organisés comme des SARL. Et puis, sur un coup, je dis pas ça pour ceux qui savent faire tes affaires en groupe, t'expose à la poucave. Marchons l'équipe et 2 heures après, vous êtes fait sauter. Y'en a un qui sort et les autres qui restent à psychoter. Non, c'est pas pour WAM, je bosse, j'ai tout laissé. Enfermé, je ne peux qu'avec une tasse et les clés. Pour faire ma thune, j'ai pris le RER aux airs pleines. J'en place une pour tous les frères qui purgent leur peine. Pas de bol, j'aurais mieux fait taffer à l'école. Pas de bol, cache-toi, nous rappera du sol.
Et donc vous écoutiez J.P. Manova, Pas de bol, et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Alors nous sommes toujours en compagnie de David Garborio, sociologue du travail, et avant de reprendre la discussion sur la logistique, c'est l'heure de la chronique de Jocelyn, et donc nous retrouvons Jocelyn qui va nous parler de Green Dock à travers la question de la mobilisation citoyenne.
Eh oui, merci Joachim, parce que Green Dock, ce n'est pas qu'un projet logistique, c'est aussi l'histoire d'une lutte politique. Pour des milliers de citoyens, tout commence en janvier 2022. À l'époque, le projet existe déjà depuis 2 ans au sein de l'administration française. Mais ce n'est qu'avec le début des travaux que les riverains le découvrent. C'est là, devant le fait accompli, que la mobilisation commence. Au total, c'est une quinzaine d'associations qui se regroupent à travers le collectif Stop Green Dock. Ils sont bientôt rejoints par les élus locaux. Imaginez, cela faisait 20 ans que les mairies de l'Île-Saint-Denis et d'Épinay-sur-Seine travaillaient au contraire à renaturaliser le site. Ils avaient même prévu de faire un musée à ciel ouvert autour de la zone protégée. Mais tous ces projets ont été balayés du jour au lendemain sans qu'on ne les consulte. Très vite, Green Dock devient donc un symbole des luttes citoyennes et pose pas mal de questions. Déjà, on peut se demander quel est l'intérêt de créer des zones protégées si on ne prend pas en compte le risque de les abîmer. Alors certes, aucune construction ne sera faite directement sur la zone elle-même, on l'a dit, mais le béton n'est pas le seul moyen de polluer un terrain. Il y a aussi la pollution atmosphérique, lumineuse, sonore et les risques de déchets. Pour rappel, on parle de 1200 camions par jour, avec une activité 24 heures sur 24. Le tout à seulement quelques mètres de la zone protégée, sur la rive opposée. La première inquiétude des écologistes, donc, on en parlait, c'est que toutes ces turbulences fassent fuir les oiseaux. On aurait alors une zone dite « d'intérêt ornithologique », mais sans oiseaux.
Mais les constructeurs n'ont pas pu ignorer ces risques pour l'environnement.
Oui, alors c'est vrai, Aropa Port, l'établissement public qui est derrière le projet assure au début avoir mené une enquête sur les conséquences environnementales. Une vaste étude avec des relevés, des sources bibliographiques et un suivi sur les 4 saisons. Quelque chose de sérieux, ils disent.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude ?
Eh bien, on ne sait pas, car elle a été classée confidentielle. Mais elle a bien été menée, attention. Donc cela nous amène à une autre question, c'est comment un projet aussi grand a-t-il pu se mettre en place sans que l'on ne consulte la population ? Pire, pourquoi, malgré la mobilisation, certaines informations restent inaccessibles ? Alors, dans un premier temps, les citoyens ont joué le jeu. Ils ont assisté aux concertations publiques, des démarches qui servent à rassembler les différents acteurs et qui sont justement ouvertes aux citoyens pour qu'ils participent.
Et alors, qu'est-ce qu'elles ont donné, ces concertations publiques ?
Eh bien, pas grand-chose, justement. Tout au plus l'annulation des fermes urbaines qui étaient prévues. Mais la large majorité du projet reste inchangée. Et ce, malgré les contestations. C'est suite à tout cela que les citoyens ont mobilisé des formes de protestation. Il y a eu des manifestations, des rassemblements ou encore des performances artistiques, comme le spectacle de danse offert devant Notre-Dame de Paris l'année dernière par la compagnie féminine Les Soreuses. Puis, il y a eu aussi des lettres ouvertes à destination d'Aropa Port, l'établissement public, on l'a dit, chargé du projet, ou encore à destination des conseillers régionaux.
Et alors, est-ce que ces mobilisations protestataires ont été plus efficaces ?
Alors oui, ça a donné de nouveaux résultats. Suite à toutes ces mobilisations, une enquête publique, cette fois-ci, a été ouverte afin de déterminer la pertinence du projet, son potentiel de nuisance et de proposer, pourquoi pas, de véritables alternatives. Et chose intéressante, cette nouvelle enquête tiendra compte des arguments des opposants. Il revient aux citoyens d'y participer. Autrement dit, là où il n'y avait au départ qu'une procédure entre l'administration française et un investisseur privé, il y a désormais, grâce aux mobilisations, un débat public dans lequel les citoyens sont enfin considérés un minimum. Ils ont rétabli de la démocratie par un rapport de force, en fait. Donc pour conclure, j'aimerais lancer désormais la discussion en attendant les résultats de l'enquête publique qui est attendue le mois prochain. Qu'est-ce qu'on sait de la pertinence écologique de ces projets ? Quels arguments sont en présence ?
Alors, ils sont présentés comme écologiques, donc green, mais il y a plein de choses qui montrent que ce n'est pas le cas. Le premier truc, c'était le fluvial. Hein, ça a été vraiment annoncé au départ comme un entrepôt fluvial. Quand on regarde les premiers articles en ligne, on voit ça, la logistique fluviale. Et c'est seulement, et tu l'as dit un petit peu, la mobilisation citoyenne qui a fait ressortir des vraies données. Et dans les vraies données, en fait, ce qui est annoncé, c'est 85% de trafic routier. 1200 rotations de camions par jour dans une zone qui est déjà surpolluée, quoi. Donc très vite, le côté fluvial a sauté. Et puis les 15%, ils sont annoncés, ils ne sont pas du tout garantis. Après, le côté green, c'est aussi le fait que ça soit plus haut, donc ça prend moins de place. C'est un argument que sortent beaucoup les promoteurs de la logistique. Bon, si on fait juste des entrepôts plus hauts et moins larges, ça ne va pas résoudre le problème que pose la logistique plus largement, puis ça fait toujours autant de camions, que ça soit en hauteur ou en largeur. Ensuite, ce qui est intéressant, je trouve aussi à montrer, c'est qu'il est beaucoup présenté comme un entrepôt de logistique urbaine. Parce qu'il y a plein de mots aujourd'hui qui servent comme ça à revaloriser un peu les activités logistiques. On dit la logistique urbaine, le dernier kilomètre, on entend beaucoup ça.
Ouais.
Et en fait, cet entrepôt-là, mais comme beaucoup d'autres en fait, la première chose à dire, c'est qu'on ne sait pas quel type de logistique sera fait à l'intérieur. C'est un promoteur immobilier qui le construit. Il va le louer à des sous-traitants. Déjà, on ne sait pas. Alors, il y a des sous-traitants qui sont annoncés, mais on ne sait pas exactement lesquels vont faire ça. Et puis ensuite, on ne sait même pas ce que les sous-traitants, eux, vont faire comme activité. À qui ils vont, quel sera leur commanditaire, quoi. Donc, on n'est pas en capacité de dire que ça va être de la logistique urbaine. C'est juste que ce mot change un petit peu le regard sur la logistique. Il est beaucoup utilisé comme ça. Et en fait, les premiers clients là, qui sont ressortis parce qu'ils ont commencé à être annoncés, ce n'est pas des entreprises qui font de la logistique urbaine, c'est des entreprises qui font de la grosse logistique, qui génèrent des flux du capitalisme.
On a le nom de ces entreprises ?
Ouais, en fait, c'est un peu inconnu, mais ces entreprises qu'on peut essayer de retenir, parce qu'elles sont intéressantes. Il y en a une, c'est DB Schenker. Et DB Schenker, c'est une filiale privatisée de la Deutsche Bahn, qui est donc la SNCF allemande. Puisque comme en Allemagne, comme en France, en fait, une partie de l'essor de la logistique, c'est des filiales privatisées d'entreprises publiques qui ont remplacé, en gros, le fret ferroviaire par des camions eux-mêmes, quoi. Donc la puissance publique a joué là-dedans. Donc eux, ils font la grosse logistique, pas du tout du dernier kilomètre. Il y en a une autre qui s'appelle Seva Logistics, encore plus inconnue, mais elle est intéressante parce que c'est une filiale logistique de CMA-CGM. Vous savez,
tout à fait.
Rodolphe Saadé, le patron, vient de racheter BFM TV. Et puis la dernière, c'est Steph. Steph, c'était la logistique frigorifique. Ça, c'est trois emplacements. Il y en a un quatrième. Le quatrième, il n'y a jamais aucun nom qui a été donné.
D'accord.
Avec un risque dans ce cas-là, c'est que ce soit un gros acteur du e-commerce dont on ne veut pas dire le nom, et ce qui s'appelle Amazon.
D'accord. Ouais. alors après, bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que le fait d'avoir un entrepôt logistique proche de Paris, qu'il soit routier ou fluvial ou un peu des deux, est-ce que ça ne répond pas à une demande assez pragmatique ? C'est-à-dire que la capitale, la région parisienne aura toujours besoin d'être approvisionnée.
Ouais, alors nous on dit qu'on va pas, enfin moi je le dis, les militants le disent aussi, qu'on va pas se passer comme ça de la logistique en claquant des doigts. On vit en métropole, dans le 93, on va pas construire nous-mêmes nos smartphones et cultiver nous-mêmes nos patates. Donc on a besoin d'approvisionnement. La question qu'il faut se poser, c'est quel type d'approvisionnement on veut. Quand on voit des projets comme ça qui se posent sur les berges de Seine dans un endroit protégé, qui n'utilisent pas du tout le fret ferroviaire, parce que c'est ça la vraie solution en fait, le transport le moins carboné c'est le fret ferroviaire. Dans les années 70, on était à 50% du fret, presque 50% du fret en France qui était du fret ferroviaire. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Donc en fait, on est en train de régresser sur ces questions-là. Et l'entrepôt Green Dock, il n'est pas du tout prévu pour être connecté au fret ferroviaire sur le port de Gennevilliers. Et même sur la question du transport fluvial, en fait, sur le port de Gennevilliers, il y a ce qu'on appelle des DARS, donc des grandes entrées d'eau, qui permettent de faire de la logistique fluviale. C'est fait pour, c'est un équipement industriel qui est fait pour. Et là-dessus, on n'a que des entreprises de béton aujourd'hui, et il n'y a rien de prévu pour de la logistique. Et ça ne se développe pas, en fait. On ne développe pas suffisamment ces endroits-là. On préfère profiter d'une opportunité immobilière, parce qu'il y a un terrain qui est libre, donner ça à un promoteur immobilier qui va juste valoriser ce terrain pour faire c'est un actif financier.
Et donc tout ça, c'est de la spéculation immobilière.
Ouais, c'est une grosse raison du développement de la logistique ces dernières années en France et ailleurs. Hein. C'est la spéculation immobilière autour des entrepôts logistiques.
Et le transport fluvial qui est annoncé comme l'alternative donc via Green Dock, mais est-ce que si Green Dock était réellement un entrepôt fluvial comme ce qui est annoncé, est-ce que ce transport fluvial est une bonne alternative au transport routier ? Est-ce qu'il faut miser dessus ?
Alors ça peut être utile, le transport fluvial. La question avec la logistique, c'est toujours celle du gigantisme. Est-ce qu'on est dans une logique de développer le gigantisme de la logistique qui est vraiment très fort, hein. En ce moment, on voit partout les mètres carrés d'entrepôts, ça se développe à toute vitesse en France. Ou est-ce qu'on est dans un schéma où on essaye de repenser les formes d'approvisionnement, c'est-à-dire voilà, quel type de logistique on veut. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de schéma directeur, il n'y a pas de pensée de ce que ça devrait être la logistique. On laisse juste se développer à l'infini des surfaces logistiques pour des raisons financières et pour des raisons plus capitalistes, parce que la logistique, ça permet de faire baisser les coûts de production des grands groupes. Et il n'y a pas de vraie réflexion autour de ça. Et il y a un exemple qui est super intéressant pour ça. Il y a un autre projet qui est très contesté actuellement, qui s'appelle le canal Seine-Nord Europe.
D'accord.
Je vous conseille de regarder. Hein. C'est un projet d'immense canal entre Compiègne et le nord de l'Europe. Et en fait, oui, c'est de la logistique fluviale, mais en fait, c'est une énorme autoroute fluviale qui va ravager des centaines d'hectares de terres agricoles, alors qu'il y a déjà un canal existant, le canal de l'Oise. Donc plutôt que de réutiliser une infrastructure et de se dire on va faire quelque chose d'intéressant du point de vue écolo, on développe encore plus de logistique.
Ça paraît assez démentiel, oui, de ne pas utiliser un canal qui existe déjà et en construire un autre. Encore une fois, c'est...
C'est déjà le cas avec les infrastructures ferroviaires en France, elles sont complètement sous-utilisées.
Et est-ce qu'on pourrait préciser quand même le bénéfice du transport fluvial par rapport au transport routier ?
Alors, j'ai plus les chiffres exacts, alors mais moi, c'est énorme.
Ah. J'ai le transport fluvial qui émettrait 4 fois moins de CO2 que le transport routier pour une tonne, enfin, par tonne transportée.
Ouais. Et puis, on peut dire autre chose aussi, c'est que du point de vue des conditions de travail, c'est un enjeu important dans la logistique, c'est un secteur où il y a beaucoup d'ouvriers, de fonctionner avec du fret ferroviaire, ce serait aussi d'avoir une logistique qui est plus organisée. Plutôt que de faire partir des camions à l'arrache toute la journée, heure par heure, sans avoir aucune forme d'anticipation et d'organisation, quand on fait partir des camions, des trains, ou quand on fait partir des bateaux, on est obligé d'organiser la logistique. Et ça provoquerait des changements de mode d'organisation qui seraient aussi bénéfiques du point de vue du travail qu'il y a derrière.
Oui, on va revenir sur cette question des conditions de travail un petit peu plus tard. Mais c'est-à-dire qu'à l'heure où l'ensemble des pays cherchent à réduire leur consommation, alors je cite Green Dock, leur consommation d'énergie et de revoir leur mode de transport pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, on voit mal comment on pourrait se passer de la logistique fluviale. Et c'est-à-dire que est-ce que le port de Gennevilliers qui existe, qui est un port, pourquoi est-ce que ce ne serait pas finalement le bon endroit pour installer cette logistique fluviale qui émet moins de CO2, donc une péniche peut transporter jusqu'à 350 tonnes, ce qui correspond à 17 camions de 20 tonnes, j'ai fait la division. C'est-à-dire que quand on nous présente le projet Green Dock, il a l'air gagnant, quoi.
Ah bah si le projet Green Dock était 100% fluvial, ou même s'il était au moins plus de 50% fluvial, il n'y aurait sûrement pas la même mobilisation qu'il y a autour. Là, vraiment, ce projet Green Dock, le nom était une alerte. Hein. C'est une opération de greenwashing importante. On peut vraiment se demander quel sera le taux de fluvial au final. Il n'y a aucune garantie sur cet aspect-là. Et même si on était à 15%, c'est-à-dire ce qui est annoncé, en fait, ça ne changerait pas l'équilibre du port de Gennevilliers. Même plutôt, ça le ferait régresser vers plus de routiers et moins de fluvial. C'est-à-dire qu'actuellement, le port de Gennevilliers a déjà un peu plus de 15% de fluvial dans ses transports de matière. Donc en fait, on est en train de réduire le taux d'usage du fluvial dans le port de Gennevilliers en construisant ce projet.
Et donc c'est un projet qui avance zéro artificialisation nette. Est-ce que c'est vrai ?
Bah, c'est un des autres arguments, hein, c'est de dire, mais regardez, il n'y a pas d'artificialisation. Ça, c'est une question qu'il faut se poser pour la métropole et pour la banlieue. C'est-à-dire que si le seul critère maintenant, c'est zéro artificialisation, la banlieue nord est assez mal barrée, hein, parce qu'en fait, tout est déjà artificialisé en banlieue nord. Donc c'est un vrai souci. Et puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire zéro artificialisation ? En fait, là, on a un chantier de démolition actuelle des entrepôts. Ce chantier, il est en cours, là, vous pouvez aller voir, c'est en train de revenir à la terre. En fait, c'est en train de redevenir une bande de terre.
On pourrait l'arrêter maintenant.
On va remettre du béton par-dessus. Hein. Donc, oui. C'est pas l'artificialisation, c'est un nom d'expert pour dire qu'on va mesurer et faire attention. Hein, mais même dans la loi ZAN telle qu'elle existe actuellement, il y a tellement de dérogations que ça pose vraiment question sur quel sera l'impact de ça, même s'il faut aller vers ça. Hein. Il y a besoin d'autre chose aussi que de ça. Et en banlieue nord, on a besoin de récupérer des espaces aussi.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ils disent zéro artificialisation, mais tu l'as dit tout à l'heure, cet endroit, il avait été recolonisé par la nature. Ils vont re-artificialiser quelque chose qui était en train de se désartificialiser en quelque sorte.
Ouais, c'est toute l'histoire des berges de Seine en fait. Hein. Ouais. Et toute la Seine en fait est un fleuve qui a été sans arrêt canalisé par l'industrie, pour la navigation d'abord. Il faut s'imaginer qu'il y a des centaines d'années, la Seine ça ressemblait à la Loire. En vrai, moi, mon fleuve préféré, c'est la Loire. Parce que la Loire, c'est très beau. Et ça ressemblait vraiment à ça. Donc, ça a été complètement canalisé. Et il y a même eu des périodes, comme il y a 30-40 ans, où les berges de Seine, elles étaient beaucoup moins arborées qu'aujourd'hui. À Épinay, par exemple, là, il y a plein d'arbres aujourd'hui. Quand il y avait beaucoup de trafic sur la Seine, il y a un moment où il n'y avait pas des arbres comme ça. C'est que des arbres assez récents, quoi. Donc on vit dans des espaces, quand on est en métropole, où il n'y a pas une nature sauvage à préserver. Il y a des choses qui évoluent. Et nous, l'enjeu qu'on peut se poser, et c'est ce que pose la mobilisation, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer ça dans le bon sens. Donc ce n'est pas cet enjeu-là de dire non, mais ça faut préserver, ça ne faut pas toucher. C'est un sujet global et sur lequel maintenant des citoyens veulent avoir un impact. Donc comment on fait évoluer ces espaces et c'est plutôt une bonne chose.
Bien, merci beaucoup. Alors on va tout de suite faire le deuxième changement de fuite de cette émission et toujours dans la playlist logistique de notre invité, on écoute Rops et Lucio Bukowski, Stress et Palette, un titre de 2017.
Quelle que soit sa marque, un transpalette électrique à conducteur accompagnant comporte toujours un timon manœuvrable de haut en bas et de droite à gauche. Lorsqu'il est lâché, le timon revient rapidement grâce à un ressort en position verticale. En bout du timon se trouve la poignée de maintien et le boîtier de commande. C'est en fait le bras de direction du transpalette. Une roue motrice se trouve dans le prolongement du timon. Deux galets de stabilisation se situent de chaque côté de la roue motrice et évitent aux transpalettes de basculer.
Je me barre et j'ai pas yep, nique le stress et les palettes. Du coup je te parle pas d'or et je représente pas de caïd en calèche. Mets des paires au dos pété dans les entrepôts scellés de ta démocratie libertaire qui effrite des pauvres dans l'OCB. Ce track n'aura rien d'exotique, je préfère parler d'ouvriers que de bigrave et de mythos névrotiques. Au propre autant que possible, vos modes de vie m'ont éreinté. Une pour ce type mort sous un camion qui n'ira plus pointer. Je les ai portés vos armoires, ça a payé mes études à 40 degrés en plein cagnard. Cette foutue boîte de déménagement de merde, j'ai encore rêvé d'elle et mes vertèbres s'en souviennent. J'ai vu des hommes usés, bosser pour des boss rusés, pour des sommes minables, vu leur santé s'épuiser. Remplir des semis puis les vider comme si j'étais poignard, sous des regards vides, des mâchoires broyant des pains bagnards. Pareil que je manque de légèreté, connard, c'est quoi ta vie? T'es au lycée, à la fac, papa, maman t'habille. Préfère être le témoin de gens qui vous mettent mal à l'aise, dont vos rappeurs en carton ne parlent jamais. Ça n'est tu pas la haine. J'ai pu apporter des meubles, mais ces darons le sont encore. Sur l'état du dos de mon père, nos putains de vie n'ont rien d'hardcore. Pense-y chaque matin où tu vas chialer sur ton sort. Le slip entre la chatte et le confort.
Essaie de monter en haut des listes, TC mettra du mal. C'est pour mes bosseurs Fenwick, TCL 7h du mat. Les trimardeurs, vénitieux, les abonnés aux deux roues. Pour les remparts, les glissières, mes albanais au feu rouge. Pas les gamins de la presqu'île, les éboueurs du Grand Lyon. Qu'ont développé des techniques pour sortir de la banlieue. Tous ceux qui portent des valises, tous ceux qui parlent de respect. Ceux qui bossent tellement pour la mif qui vont pas manifester. Un système tronqué à la base, comment veux-tu qu'on s'en sort? L'écart se creuse et Barabas, toujours cloué à son sort. Ah, je peux t'en faire des métaphores, ça vaudra pas le coup de la vie. Nice de la rue qui se réveille pour galérer dans le froid sous la pluie. Changerai pas d'attitude, j'ai pas me faire des névroses, des complexes. Ils sont tous azimuts, on remet juste les choses dans leur contexte. Moi j'ai pas changé d'adresse, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? En vrai c'est pas compliqué, on fait juste tourner la France. Moi je suis dans le futur, des corbeaux volent autour de ma tombe. Le système dégringole, retour de flamme, retour de bâton. Mais j'oublie pas ce qu'on m'offre. Le cœur glacé à la sève, c'est son rave de ouf. Le coffre rempli de ferraille à la sève. Prolétaire, tu perds ta vie sur un pétrolier de merde. Pendant que les gens y mettent des millions dans un collier de perles. En vrai si tu cherches ta solution, Bélo crois pas que je l'ai. Pas qu'au bord des nerfs à gratter 20 balles pour un pack de lait. On demande pas que de l'aide, les gens c'est pas des chiens. On se casse le cul pour des choux, nos darons c'était pas des schmitts. Moi c'est Robin, bientôt je vais me barrer dans le sud. Eux ils pourront prendre des paillettes et plus les carrer dans le cul. Parce que les enfants de la galère se demandent plus comment tu fais. Ils regardent la gueule d'un empire qui a l'air comme amputé. Heinz sa part en sucette, à toi t'as pas rendu compte. Vivre entre stress et palette, je crois bien que je vais te faire un tuto.
Et on est toujours sur Radio Campus Paris, il est 20h38 et on parle de l'empire logistique avec notre invité David Gaborio.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Et alors tout de suite, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du quiz, c'est l'heure du Caps ou pas Caps.
Ouais.
Allez, le jingle du Caps ou pas Caps.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Alors Pierre-Yves qui est en régie, tu nous as préparé un quiz et en lien donc avec les entrepôts.
Et oui, donc je vous propose un petit jeu de questions et réponses en lien avec les entrepôts. Donc c'est pas compliqué, je vous pose une question et vous vous débrouillez pour me donner la réponse. Si possible, la bonne réponse. Alors on va pas tergiverser et pour commencer, ce que je vous propose, c'est un petit saut dans le temps, un petit bond en arrière, une petite rétro cabriole, un petit voyage à l'époque de la Révolution française.
Ouh.
Alors, est-ce que vous saviez qu'à cette époque-là, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, il a existé pendant 9 ans un énorme entrepôt en plein cœur de Paris? Est-ce que vous sauriez me dire de quel lieu il s'agissait? Parce que oui, vous le connaissez.
La prison de la Bastille?
C'était pas un opéra qui avait été transformé?
C'était pas un opéra, non. Mais c'est un lieu en tout cas qui existe encore, que vous connaissez.
Et c'est toujours un entrepôt aujourd'hui?
Non.
Ah non, bah non.
Et est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas les catacombes
Ouh, c'est une très bonne idée ça. Peut-être.
Alors, est-ce que c'est les catacombes ? Non, c'est pas les catacombes du tout. C'est un bâtiment, c'est un monument historique qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le Panthéon ?
Non, je vous donne encore des indices si vous voulez. C'est un lieu de culte.
Notre-Dame de Paris.
Gothique, effectivement.
Ah, waouh.
C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Qui donc fait partie des premiers édifices religieux parisiens qui étaient pillés à l'aube de la Révolution française, et elle devient un bien national dans le cadre de la déchristianisation menée par le gouvernement révolutionnaire de Paris en 1792. Et dès 1793, elle est transformée donc en énorme entrepôt pour
qu'est-ce qu'on y stockait ?
Question bonus.
Ah, c'est ça la question.
Qu'est-ce qu'on y stockait ? Moi, je vous savez.
Des armes, je
dirais. Des choses qui se mangent
Qui se boivent plutôt.
Ouh, bah de l'alcool.
Ouais, exactement.
De la bière, du vin.
D'après mes sources, qui valent ce qu'elles valent, on y stockait des milliers de tonneaux de vin pour l'armée révolutionnaire du Nord. Donc voilà, c'est qu'en 1900.
En même temps, le vin, c'est sacré, hein.
Certainement. Et c'est seulement en 1801 et l'arrivée de Napoléon que la cathédrale redevient un lieu de culte catholique. Alors, toujours sur les entrepôts, on va cette fois en Bretagne, plus précisément à Ploermel, dans le Morbihan. Enfin, je crois que c'est dans le Morbihan.
Sûrement.
On est en 2014 et un couple s'est rendu dans un entrepôt frigorifique pour faire une chose un petit peu particulière. De quoi s'agit-il ?
Ce serait trop facile si c'était juste...
La chose.
La chose.
Ce n'est pas la chose.
D'accord. Est-ce que c'est sexuel ?
C'est pas sexuel, enfin du moins je ne sais pas, je veux pas préjuger, mais a priori non.
D'accord. Est-ce qu'ils avaient besoin d'outils ?
Ils n'avaient pas besoin d'outils, mais ils avaient besoin d'un équipement, et en fait c'était pour tester cet équipement qu'ils y sont allés.
Ah, ouais, un gilet.
Attends, tu nous as dit que c'était dans une chambre froide ?
Dans un entrepôt frigorifique.
Ils voulaient se la jouer explorateur des grandes plaines froides.
Tu y es. En fait, ils ont fait même plus que ça. Ils ont fait plus que y jouer. Ils s'y sont entraînés.
Ah oui.
Stéphanie et Jérémy donc ont fait un footing dans des températures entre moins 20 et moins 25 pour préparer leur traversée de l'Antarctique à l'époque à ski.
Comme Rocky, finalement, qui s'entraîne dans la chambre froide.
Ils ont dû s'inspirer de Rocky. Et l'idée, c'était donc de traverser l'Antarctique sur 1800 km, et ils se sont entraînés avec leur équipement. Donc, voilà.
Qu'on sait s'ils ont fait leur footing dans
Alors,
les steppes ensuite ?
Je ne suis pas renseigné, non.
D'accord.
Je ne sais pas.
Bon, on leur souhaite bon courage.
Oui, je leur souhaite. Bon courage, en tout cas, bravo, parce que c'était en 2014. Donc j'espère
que
c'est fini.
Ils ont fait alors. Bravo à eux.
Et pour la dernière question, on s'approche un petit peu plus du présent, mais cette fois on va au Mexique. Comme vous le savez, l'empire de la logistique, c'est aussi l'empire du productivisme. L'empire du mal, exactement. Et pour lutter contre ça, donc, il a été décidé à Mexico, en mars dernier, d'organiser un événement un petit peu spécial, dans la rue et en plein cœur de la ville. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Ils ont brûlé des entrepôts. Alors, non, ils les ont apportés dans la rue.
D'entrepôt, c'était quelque chose de plus calme, je dirais.
De plus festif.
Pour lutter contre vraiment cette idée de productivisme.
Ah, ils ont rien
de
fait.
De travail.
Ah, ouais. Ils ont fait la sieste.
Ils ont fait la sieste.
Mais
exactement.
Non, c'est vrai.
Ouais.
Trop bien.
Excellent. Ils ont fait une sieste géante. Et 300 personnes ont participé quand même à cette sieste. Et, bon, en réalité, c'était surtout pour célébrer la journée mondiale du sommeil. Mais les organisateurs ont quand même revendiqué qu'il s'agissait aussi d'une manifestation pacifique pour le droit du sommeil.
Ça, c'est mon genre de manif.
Ouais, une idée bienvenue donc pour toi, Alex, aussi. Quand on sait que les espaces et les moments de sieste en entreprise sont donc bien loin d'être légion, sans parler des conditions intolérables des travailleurs dans ces hauts lieux du capitalisme.
J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
En faisant la sieste.
Ben merci beaucoup Pierre-Yves. C'est vrai que faire la sieste au travail, c'est quand même mal vu, et pourtant qu'est-ce que c'est bien. J'espère que personne avec qui je travaille écoute cette émission. Alors on va reprendre cette discussion sur la logistique, sur l'empire logistique, et en élargissant un peu l'angle, et on va se demander pourquoi est-ce que la logistique se développe tant que ça en ce moment, qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, il y a différentes raisons. En fait, il faut peut-être expliquer d'abord que la logistique telle qu'elle se développe actuellement, c'est pas la logistique de base un peu classique qui a toujours existé, c'est-à-dire de transporter un produit d'un point A à un point B, ce dont on a toujours eu besoin à peu près. Ou alors il faut remonter très 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 loin. En fait, on peut distinguer la logistique de ce qu'on appelle l'empire logistique. L'empire logistique, c'est un truc qui se développe à partir des années 80 et qui est une grande transformation du capitalisme. On parle même de révolution logistique. On peut dire que c'est plutôt une contre-révolution logistique d'ailleurs. Mais parce qu'avec la globalisation, on commence à produire partout dans le monde. On crée un truc, c'est que, ok, on se sépare des ouvriers en France, on fait disparaître plein d'usines. Bon, il y en a encore plein des ouvriers, mais on fait disparaître plein d'usines de production, on les envoie très loin dans des pays à bas coût. Et quand on fait ça, en fait, on génère un énorme besoin logistique parce qu'il faut connecter les lieux de production en Asie, en Europe de l'Est, avec les lieux de consommation qui restent chez nous. Et là, on fait émerger tout un monde qui apparaît et petit à petit, en fait, ça va être plus seulement de transporter de très loin jusqu'à chez nous, ça va être en fait de produire un objet en utilisant les frontières et l'espace. Et par exemple, un iPhone aujourd'hui, il est produit dans plein d'endroits dans le monde. Donc pour chaque pièce, on choisit l'endroit où ça va être le moins cher, où il y a le moins de contraintes environnementales, etc., etc. Et votre iPhone, en fait, même arrive, avant d'exister, avant d'arriver chez vous, il a déjà fait 20 fois le tour du monde juste pour être produit. Donc la logistique devient un mode de production, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la sphère de la circulation qui devient tout d'un coup centrale dans le capitalisme, alors qu'avant, c'est la sphère de la production qui était centrale. Il y a un autre phénomène qui est important, qui est moins connu, c'est l'externalisation, la sous-traitance. Et c'est un peu la même idée, en fait. Quand on commence à faire de la sous-traitance, donc plutôt que de tout produire sur un lieu avec une usine qui produisait des automobiles où il y avait 10, 20 000 ouvriers sur le même site, on se met à tout éclater en plein de petits sites, en plein de petites unités juridiques. Bon, tout ça est un gros bazar, mais on a besoin de logistique du coup pour recréer du lien, pour connecter un peu tous les espaces et toutes les unités. Et ça aussi, en fait, c'est un mode de production qui va créer la logistique. Puis il y a une dernière chose quand même, c'est qu'est l'émergence de la grande distribution. Qui va aussi, la grande distribution, elle a besoin pour vendre à bas coût, de stocker des très gros achats de produits en masse, et elle les stocke dans des entrepôts. Et ce qui est important dans tout ça, c'est de voir que la logistique, et ça, c'est, il faut bien le penser, parce que c'est souvent expliqué comme ça aujourd'hui, il faut faire attention, c'est pas juste un mode de consommation. C'est pas juste parce que nous, on commande des colis ou des objets qu'on fait augmenter la logistique. Il y a quelque chose qui a émergé bien avant ça, et c'est un mode de production. Il y a un mode de distribution qui est né du capitalisme, c'est le capitalisme qui le fait croître, c'est pas juste nos petites consommations à nous, même si on peut réfléchir à nos modes de consommation, c'est toujours utile.
Donc, et on parle d'usine à colis, enfin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une création de valeur marchande pour quelque chose qui est un service qui était d'abord, enfin, il fut un temps intégré dans les sociétés qui produisaient. Elles avaient le service logistique qui n'était pas forcément le service rentable, mais qui permettait d'envoyer. Aujourd'hui, c'est externalisé, c'est devenu de la valeur marchande.
L'usine à colis, c'est bien pour montrer que ça crée de la valeur, mais aussi c'est une manière de dire que les nouveaux ouvriers, du coup, c'est les ouvriers de la logistique beaucoup, parce qu'on a fait disparaître une partie du monde ouvrier, on ne l'a pas fait disparaître, on l'a déplacé dans des pays à bas coût, mais en retour, en fait, on a recréé une autre forme de monde ouvrier, qui est le monde ouvrier de la logistique, et aujourd'hui, en fait, en France, il y a un quart des ouvriers en France qui sont dans la logistique et dans le transport, ce qui est énorme, en fait, c'est autant que le BTP, c'est beaucoup plus que l'automobile. Et ça, c'est une transformation majeure des mondes ouvriers en France ces dernières années.
Et les... Oui, vas-y.
Non, c'est juste parce que ça me rappelle une anecdote, parce que j'ai de la famille dans les Vosges. Il faut savoir que les Vosges, c'est une des plus vieilles forêts entretenues. Depuis au moins le XVIIIe siècle, on servait beaucoup du bois, notamment comme énergie pour brûler les fonderies, etc. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup moins ça, mais il y a énormément d'artisans qui ont subsisté pour le fameux bois des Vosges, des ébénistes, etc. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que leur meuble des Vosges, qui est 100% des Vosges, donc l'arbre a poussé dans la forêt des Vosges, l'artisan vit dans les Vosges. Entre la pousse de l'arbre et le meuble, il y a une étape qui s'est passée en Chine.
Ah oui.
Où en fait, le bois, après avoir été coupé, il est envoyé par bateau jusqu'en Chine ou dans une usine où il est débité en planches qui sont ramenées en France. Parce que ça coûte moins cher de l'envoyer en Chine et de le faire couper aux frais chinois que de le faire directement avec un ouvrier sur place.
Tout à fait. En fait, ça, c'est vraiment la logistique qui permet ça. Et ce n'est pas juste un outil qui permet de faire ça. Du coup, ça devient un moteur parce que la logistique renforce ces logiques-là. Et on cite souvent aussi l'exemple du cabillaud, le cabillaud de la mer du Nord. Quand vous l'achetez en supermarché, vous dites « Mer du Nord, c'est pas loin. » En fait, il était emballé en Asie. Et c'est grâce à la logistique qu'on peut faire des trucs comme ça.
C'est complètement dingue. Et oui, c'était ma prochaine question. C'est-à-dire que ces entrepôts, ces plateformes, ces hangars, est-ce qu'ils répondent toujours à des besoins ou est-ce qu'ils participent à la création de ce besoin? Est-ce qu'on peut parler d'un genre d'effet rebond?
On peut même questionner leur lien avec nos besoins. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut reconnaître, c'est que la logistique, ça a permis au monde occidental d'accéder à plein de produits à bas coût, à très bas coût, plus bas que leur coût normal. Et ça, c'est sûr que c'est un truc dont il va falloir se détacher et qu'il faut repenser. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Par contre, est-ce que c'est vraiment nos besoins qui tirent la logistique vers sa croissance? Non, c'est, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'on l'a dit, même en fait, si on faisait attention à consommer des produits qui viendraient d'à côté de chez nous, on n'est pas sûr de ce qui se produit en termes de logistique. On peut citer l'exemple du savon de Marseille. Par exemple, le savon de Marseille qui est produit à Marseille, si vous l'achetez à Aix-en-Provence, vous avez l'impression que c'est un produit local. En fait, pour des besoins économiques, il est stocké à Orléans. Donc il a déjà fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans votre poche, vous avez l'impression d'acheter un produit local. Donc il n'y a pas que nos besoins qui poussent vers ça, même si, encore une fois, c'est bien de réfléchir à nos besoins, à nos modes de consommation. Derrière, il y a un monde capitaliste qui est un monde de production et de distribution qui a sa propre logique.
C'est révoltant. Mais alors, on a assisté à une importante modification des abords des villes, hein, des zones commerciales qu'on connaît, des hangars gigantesques en sortie d'autoroute, ce genre de choses. Et donc, il y a quelques années, a été votée la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette. On en a très rapidement parlé tout à l'heure, mais est-ce que cette loi a eu un impact sur la courbe exponentielle de création de ces entrepôts logistiques? Est-ce que ça a pu la freiner un petit peu?
Pour l'instant, elle n'est pas encore mise en œuvre. Donc, l'impact qu'elle a pour le moment, c'est un impact négatif. C'est-à-dire que les acteurs du secteur, comme ils anticipent la loi ZAN, ils construisent à fond en ce moment. Donc, c'est les petits effets retours de ce genre de loi. Et puis, sur son impact à long terme, bien sûr, c'est intéressant et ça pourrait produire des choses. Ce qui est inquiétant, on l'a vu très récemment, c'est qu'il y a une liste très très longue de dérogations pour des grands projets qui est sortie il y a quelques semaines, où il y avait plus de 140 grands projets. Et parmi ces grands projets, il y avait beaucoup d'infrastructures logistiques, des autoroutes notamment, et des entrepôts aussi.
Les autoroutes, ça compte comme une infrastructure logistique?
Ah, bien sûr.
Et il y a même la 69, par exemple.
Quand on parle de l'empire logistique, on peut dire que la force obscure de l'empire logistique, c'est des entrepôts qui justifient la création d'autoroutes, qui vont justifier ensuite la création de nouveaux entrepôts. Et il y a un côté cercle infernal comme ça. Ouais. C'est vraiment deux trucs qui se nourrissent beaucoup.
Et donc toute cette question de la logistique, au-delà de l'artificialisation des terres, de la question de biodiversité, de notre mode de consommation, ça nous pousse aussi à consommer, parce que ça fait diminuer les prix de plein de choses, ça pose aussi la question des conditions de travail. Hein, parce que le secteur est en tête des classements en termes de maladies professionnelles et d'accidents du travail, avec des taux de sinistralité deux fois supérieurs à la moyenne nationale.
Ouais. Quand on disait que c'était tout à l'heure un nouveau monde ouvrier, eh ben c'est pas le même que celui d'avant. Alors déjà, c'était pas la fête de travailler comme ouvrier dans l'automobile, hein, ça on le sait bien, mais ce qui est apparu avec la logistique, c'est un monde ouvrier où le travail et l'emploi sont encore plus dégradés. Donc très faible salaire, très forte pénibilité, très forte répétitivité des gestes, avec beaucoup d'hyper-sollicitations, on fait des gestes très très répétitifs. Pour des tonnages journaliers, ce qu'on appelle le tonnage journalier, c'est le cumul du poids de tous les colis que tu portes dans la journée, absolument énormes, qui peuvent atteindre 7, 8 tonnes. Moi, j'ai travaillé dans la logistique pour pouvoir observer ce qui s'y passait, et ça m'est arrivé de mesurer 10 à 12 tonnes par jour et par individu, dans les fruits et légumes, par exemple.
Par individu.
Bon, par individu, ouais. Et en fait, ça va vite, hein, c'est quand on porte des colis de 20 kilos et qu'on les porte pendant 7 heures à un rythme soutenu, à la fin, ça fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Hein.
Je trouve ça fou qu'un individu tout seul puisse porter en une journée 20 tonnes.
10-12 tonnes.
Oui, 12 tonnes, pardon.
Mais c'est déjà énorme.
Mais c'est déjà énorme, ouais. Et oui, puis il y a aussi une énorme surveillance des employés, c'est ça?
Alors, ouais, c'est. Alors, surveillance, pas forcément au sens où on les contrôle tout le temps, surveillance panoptique, là, comme s'il y avait des caméras qui les filmaient. Bon, ça existe, hein. Mais en fait, la surveillance dans les entrepôts logistiques, c'est plutôt une standardisation du travail. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont tellement perfectionnés, et notamment des logiciels pour les entreprises, qui contrôlent très fortement l'activité. Donc, on peut même plus contourner ce qui se passe, quoi. Et il y a notamment un outil qui est connu pour ça, c'est ce qu'on appelle la commande vocale. Donc c'est des ouvriers, ça c'est dans plus de 80% des entrepôts de la grande distribution alimentaire, dont les Carrefour, Leclerc, Super U, tout ça. Les ouvriers, ils portent un casque sur les oreilles, ils ont un micro devant la bouche, et c'est une voix numérique qui leur dit tout ce qu'ils doivent faire, et eux, ils valident à chaque fois qu'ils prennent un colis. Ce qui fait qu'en fait, ils ont une espèce de script qu'ils sont obligés de suivre point par point, et on ne peut jamais prendre de l'avance ni revenir en arrière. Et vous mettez avec ça une prime de productivité qui fait que tout le monde travaille à toute vitesse. Ça fait qu'il n'y a même plus besoin de surveiller les ouvriers. En fait, ils sont obligés de suivre le script et ils travaillent vite parce que les primes de productivité, c'est 200, 300 euros parfois. Donc, tout le monde essaye de l'avoir, quoi.
Et ça, j'imagine que ça doit créer de la frustration, de la fatigue d'entendre toute la journée une voix dans les oreilles qui est en train de te parler. Ouais. Il doit y avoir plein de pathologies du travail qui doivent se développer.
Mais après, malheureusement, quand on est ouvrier, quand on a un parcours d'ouvrier, on apprend à gérer ce genre de trucs, parce que sinon, c'est intenable. Donc, il faut déconnecter le cerveau, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Ouais. Il y a même des petits artifices qui peuvent être utiles, par exemple, fumer des gros pétards. Ça aide, il y a plein d'ouvriers qui expliquent ça, ça aide à ne pas modération. Trop réfléchir, et c'est ce que demande l'outil. Hein. Il est présenté comme ça, il ne faut pas réfléchir. Dès qu'on se met à vouloir être proactif, à réfléchir, on fait bugger la machine. Donc voilà, c'est un moment dans sa vie, on décide que le travail, c'est juste le moment où je déconnecte mon cerveau. Mmh. Et puis quand je sors, je fais autre chose, on a une vie à côté. Quoi.
Et puis en plus de tout ça, la logistique ne crée pas vraiment les emplois qu'elle annonçait créer, puisqu'on s'est rendu compte que, c'est un chiffre que j'ai trouvé, vous me dites si vous le confirmez, mais 6 emplois détruits dans le commerce de proximité pour un créé dans le e-commerce par exemple.
Ouais, ça c'est spécifique au e-commerce, mais ça se pose plus largement pour toute la logistique, c'est-à-dire que cette activité-là, elle n'invente rien de nouveau, en fait. Elle vient juste remplacer des activités qui existaient auparavant, et notamment le e-commerce. Et c'était des activités qui créaient plus de rapports humains, qui créaient plus d'emplois, et qui avaient moins d'externalités négatives en termes d'écologie. Donc ça ne vient pas inventer, c'est pas un nouveau produit, ça n'invente rien, la logistique, ça vient juste appauvrir quelque chose qui existait déjà.
Et alors, la question, ce serait un peu comment se passer de cette logistique. Antoine Chao parle d'anthropocène. J'aime bien le terme. Dans un précédent reportage sur Green Dock et la contestation, Antoine Chao, par ailleurs, dans la très bonne émission de reportage C'est bientôt demain sur France Inter, s'arrête à la rentrée. Et donc, des surfaces d'entrepôts qui se multiplient. On est passé de 90 millions de mètres carrés d'espace d'entrepôt aujourd'hui contre 30 millions au début des années 2000. Donc, on a x3 en 20 ans. Et voilà, la question, c'est est-ce qu'on peut se passer de cet empire logistique?
Alors déjà, il faudrait le ralentir un petit peu, avant de s'en passer. Là, le problème actuel, c'est l'expansion très très forte, quoi. Et c'est important à dire, parce que de s'en passer, ça paraît un peu inatteignable comme objectif. Pour l'instant, l'objectif, ce serait déjà de réduire un peu l'expansion sans fin. Et après, s'en passer, c'est complexe. Je pense pas qu'on puisse s'en passer, moi, personnellement. Alors, ce sera un vrai débat à avoir. Hein. Mais l'enjeu, c'est plutôt de le repenser, quoi. Ce serait quoi l'approvisionnement? Et approvisionnement, c'est une manière de contourner le mot logistique un peu. On a besoin d'une forme d'approvisionnement et ça peut être utile qu'on produise certains types de produits dans certains endroits en fonction des conditions climatiques. C'est pas complètement absurde. Et donc, on a besoin de transporter et d'approvisionner. Une des choses qu'on pourrait dire, c'est qu'au moins, une des premières choses, ce serait de poser un moratoire sur les entrepôts logistiques et d'essayer de les limiter. Et puis ensuite, de repenser des schémas logistiques, que ça soit un peu planifié, pensé par la force publique. Parce que pour l'instant, c'est juste une expansion sans fin et sans contrôle.
Bien, merci beaucoup David Gaborio, donc sociologue du travail, pour cette mise au point de la logistique et de l'empire logistique. Alors, je vais citer les soulèvements de la Terre pour terminer. Le capitalisme mondialisé qui repose sur la démultiplication de ses infrastructures logistiques. Mais si ces dernières sont sa condition d'existence, elles sont aussi son talon d'Achille. Et c'est pourquoi le week-end du 24, 25 et 26 mai, donc dans pas longtemps, contre Green Dock et son empire, entravons le flux logistique et dessinons les berges que nous souhaitons avoir sur tous les axes, sur terre, sur l'eau. Les mots d'ordre seront les mêmes, blocage et piraterie. Alors merci à tous pour cette super émission et on se retrouve le mois prochain pour un prochain Happy Hour scientifique.
Bon, bah, y a messieurs, hein, à la prochaine. Et au revoir, et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.